Il était une fois.
Je marchais dans la rue.
Il y avait chapitre 1.
Le retour de Jean-Jean.
Je t'avance en jouant avec son carré.
Bonjour, c'est Nadia sur Neptune FM. Bienvenue dans notre chronique hebdomadaire littéraire à deux voix. Alors cette semaine, nous allons partager un temps de lecture et les coups de cœur littéraires de chacun en compagnie de Naïs. Bonjour Naïs.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on a choisi un roman intitulé La carte postale, écrite par Anne Berest aux éditions Grasset et qui a reçu le prix Renaudot des lycéens en 2021. Alors la narratrice Anne Berest se lance sur les traces de sa famille disparue et déportée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tout commence par cette étrange carte postale. On t'écoute Naïs, tu peux commencer.
Ma mère a allumé la première cigarette de la journée, sa préférée, celle qui brûle les poumons en réveil. Puis, elle est sortie de chez elle pour admirer la blancheur qui recouvrait tout le quartier. Il était tombé dans la nuit au moins 10 cm de neige. Elle est restée longtemps à fumer dehors, malgré le froid, pour profiter de l'atmosphère irréelle qui flottait sur son jardin. Elle a trouvé que c'était beau, tout ce rien, cet effacement de la couleur et des lignes.
Soudain, elle a entendu un bruit étouffé par la neige. Le facteur venait de faire tomber le courrier par terre au pied de la boîte aux lettres. Ma mère est allée le ramasser, en faisant bien attention de regarder où elle posait ses chaussons pour ne pas glisser. Toujours sa clope au bec, dont la fumée se décuplait dans l'air glacé, elle s'est dépêchée de rentrer dans la maison, réchauffer ses doigts engourdis par le froid. Elle a jeté un coup d'œil rapide aux différentes enveloppes. Il y avait les traditionnelles cartes de vœux, la plupart de ses étudiants de la fac, une facture de gaz, quelques publicités. Il y avait aussi des lettres pour mon père. Les collègues du CNRS et ses thésards lui souhaitaient tous la bonne année. Parmi le courrier, très ordinaire, en ce début de mois de janvier, elle était là, la carte postale. Glissée entre les enveloppes, l'air de rien, comme si elle s'était cachée pour passer inaperçue.
Ce qui a tout de suite intrigué ma mère, c'était l'écriture. Étrange, maladroite. Une écriture qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Puis, elle a lu les quatre prénoms, écrits les uns en dessous des autres, sous forme de liste. Ephraïm, Emma, Noémie, Jacques. Ces quatre prénoms, c'étaient ceux de ses grands-parents maternels, de sa tante et de son oncle. Tous les quatre avaient été déportés 2 ans avant sa naissance. Ils étaient morts à Auschwitz en 1942. Et il ressurgissait dans notre boîte aux lettres 61 ans plus tard, c'est lundi 6 janvier 2003.
Qui a pu bien m'envoyer cette horreur ? S'est demandé Lélia. Ma mère a eu très peur, comme si quelqu'un la menaçait, tapie dans l'obscurité d'un temps lointain. Ses mains se sont mises à trembler. Regarde Pierre, regarde ce que j'ai trouvé dans le courrier. Mon père a pris la carte postale, l'a approché de son visage pour l'observer de près, mais il n'y avait pas de signature, pas d'explication, rien, seulement ses prénoms. Chez mes parents, à cette époque-là, on ramassait le courrier par terre, comme des fruits mûrs tombés de l'arbre. Notre boîte aux lettres était devenue si vieille qu'avec le temps, elle ne retenait plus rien. C'était une véritable passoire, mais nous l'aimions ainsi. Personne ne songeait à la changer. Dans notre famille, les problèmes ne se réglaient pas de cette manière. On vivait avec les objets, comme s'ils avaient le droit à autant d'égards que des êtres humains. Les jours d'averse, les lettres finissaient trempées, l'encre se diluait, et les mots devenaient à jamais indéchiffrables. Le pire, c'était les cartes postales, dévêtues comme des jeunes filles, bras nus, sans manteau en hiver. Si l'auteur de la carte postale avait utilisé un stylo à plume pour nous écrire, son message serait tombé dans l'oubli. Le savait-il ? La carte était rédigée au stylo bille noir.
Le dimanche suivant, Lélia a convoqué toute la famille, c'est-à-dire mon père, mes sœurs et moi, autour de la table de la salle à manger. La carte est passée de main en main. Nous sommes restés silencieux un long moment. Ce qui n'est pas courant chez nous, surtout à l'heure du déjeuner dominical. Dans notre famille, d'ordinaire, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui tient à l'exprimer sur le champ. Cette fois, personne ne savait quoi penser de ce message qui arrivait de nulle part.
La carte postale était très banale. C'était une carte pour touristes, avec une photographie de l'Opéra Garnier, comme on en trouve par centaines dans les bureaux de tabac, sur des présentoirs en fer, partout dans Paris. Pourquoi l'Opéra Garnier ? A demandé ma mère. Personne n'a su quoi répondre.
Le cachet est celui de la poste du Louvre.
Tu crois qu'on peut aller là-bas, se renseigner ?
C'est le plus grand bureau de poste de Paris. C'est immense. Que veux-tu qu'on te dise ?
C'est fait exprès, tu crois ?
Oui. La plupart des lettres anonymes sont envoyées de la poste du Louvre.
Elle ne date pas d'hier. La carte a au moins 10 ans, ai-je fait remarquer. Mon père l'a dirigée vers la lumière. Il a observé quelques secondes, très attentivement, pour en conclure que la photographie datait bien des années 90. L'acromie du tirage au magenta saturé, ainsi que l'absence de panneaux publicitaires autour de l'Opéra Garnier, confirmaient mon intuition.
Je dirais même du début des années 90, a précisé mon père.
Qu'est-ce qui te fait dire ça, demandait ma mère.
Parce qu'en 1996, les bus CS10 verts et blancs, comme celui que vous voyez à l'arrière-plan de l'image, ont été remplacés par les RP312, avec une plateforme et un moteur situé à l'arrière.
Personne ne s'est étonné que mon père puisse connaître l'histoire des bus parisiens. Il n'a jamais conduit de voiture, encore moins un bus, mais son métier de chercheur l'a entraîné à connaître une multitude de détails sur des sujets aussi hétéroclites que pointus. Mon père a inventé un dispositif qui calcule l'influence de la Lune sur les marées terrestres et ma mère a traduit pour Chomsky des traités de grammaire générative. Ils savent donc à eux deux une quantité inimaginable de choses, la plupart du temps inutiles dans la vie concrète. Sauf, parfois, comme ce jour-là. Pourquoi écrire une carte et attendre 10 ans avant de l'envoyer ?
Mes parents ont continué à s'interroger. Mais moi, je me foutais complètement de cette carte postale. En revanche, la liste des prénoms m'a interpellée. Ces gens étaient mes ancêtres, et je ne connaissais rien d'eux. J'ignorais les pays qu'ils avaient traversés, les métiers qu'ils avaient exercés, l'âge qu'ils avaient quand ils furent assassinés. Si on m'avait présenté leurs portraits, je n'aurais pas su les reconnaître au milieu d'inconnus. J'en ai ressenti de la honte.
À la fin du déjeuner, mes parents ont rangé la carte postale dans un tiroir et nous n'en avons plus jamais reparlé. J'avais 24 ans et la tête occupée par une vie à vivre d'autres histoires à écrire. J'ai effacé de ma mémoire le souvenir de la carte postale, sans pour autant abandonner l'idée qu'il me faudrait un jour interroger ma mère sur l'histoire de notre famille. Mais les années filaient et je n'ai presque jamais pris le temps de le faire. Jusqu'à ce que 10 ans plus tard, je sois sur le point d'accoucher. Mon col s'était trop ouvert, trop tôt. Il fallait que je reste allongée pour ne pas précipiter l'arrivée du bébé. Mes parents ont proposé que je vienne quelques jours chez eux où je n'aurais rien à faire. Dans cet état d'attente, alors j'ai pensé à ma mère, à ma grand-mère, à la lignée de femmes qui avaient accouché avant moi. C'est alors que j'ai ressenti le besoin d'entendre le récit de mes ancêtres.
Lilia m'a emmenée dans le bureau obscur où elle passe le plus clair de son temps et a pris une feuille de papier et un stylo. Comme tous les enseignants à la retraite, elle continue d'être professeure en toutes circonstances, même dans sa façon d'être mère. « Je te préviens, m'a dit ma mère, c'est un récit hybride que tu vas entendre. Certains faits sont donnés comme évidents. Toutefois, serait estimée la part des hypothèses personnelles qui ont finalement abouti à cette reconstitution. D'ailleurs, de nouveaux documents pourraient compléter ou modifier de façon substantielle mes hypothèses, évidemment. »
Lélia en a profité pour allumer une cigarette et commencer le récit de la vie d'Éphraïm. Emma, Noémie et Jacques, les 4 prénoms de la carte postale. Voilà, la carte postale, c'est un récit, donc un gros roman quand même de 528 pages, mais je vous le conseille vivement, dans lequel Anne Berest part à la recherche de l'origine de sa famille et mène l'enquête pour répondre à tout un tas de questions. Qui sont ces 4 prénoms inscrits à l'arrière de la carte? Pourquoi on envoie cette carte 60 ans plus tard? Et qui est l'auteur de cette carte? Pour démasquer l'auteur, Anne va mener l'enquête, mais en duo. Elle va y arriver grâce à sa mère, qui a effectué un tas de recherches sur la famille. C'est une vraie quête d'identité, savoir d'où l'on vient, et puis ensuite le transmettre de génération en génération. Alors, toi Naïs, si on devait parler d'enquête et de famille, d'abord, est-ce que toi, par exemple, vous parlez de votre famille, de tes ancêtres, avec tes parents, est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur...
Assez compliqué parce que si on part loin, la famille est assez grande, très grande même. Alors on a déjà essayé de faire des arbres généalogiques, mais on a arrêté très vite. C'était trop compliqué, trop long.
Ça avait trop grandes branches, ça partait dans...
Trop de branches.
Ouais. Vous êtes combien à peu près dans la famille, tu saurais dire?
Aucune idée, franchement, beaucoup.
Pour l'instant, les arbres généalogiques, on les met de côté.
On verra plus tard.
Ok. Et en termes d'enquête, est-ce que toi, t'as déjà mené l'enquête? Est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose qui t'a donné envie d'enquêter?
Pas vraiment, j'ai jamais vraiment mené d'enquête, si ce n'est le vol de 4 couleurs de la classe.
Génial.
On a fini par démasquer le coupable qui en a rendu la moitié.
Quand tu dis 4 couleurs, c'est les stabilos?
Non, les...
Ah non, les billes, les stylos billes, 4 couleurs, ah oui, très bien. Et donc, il y a un voleur de 4 couleurs?
Il a laissé tomber l'année dernière.
Tu es démasqué, voleur de 4 couleurs.
Voilà, il en a rendu la moitié les plus moches.
D'accord, très bien. Ça, ouais, c'est honnête.
Ça va, c'est...
Ok, mais t'aimerais bien toi, te mettre dans la peau d'une enquêtrice.
Oui, je trouve ça assez, je sais pas si on peut dire rigolo, mais assez intéressant à faire.
Ouais. Et dans les livres, toi, ça, c'est ça qui t'a... Que tu aimes bien, justement?
Oui, les livres d'enquête, c'est ce que je préfère.
Ouais.
C'est ce qu'il y a de plus intéressant.
Mmh. Et ben là, je vous recommande vivement ce livre d'Anne Berest, parce que c'est à la fois une enquête, à la fois une histoire quand même autobiographique, romancée. Mais voilà, on en apprend beaucoup sur l'histoire et en même temps sur sa manière de revenir dans le passé. Je vous encourage à le lire, et toi la première, Naïs.
Je le lirai, peut-être.
Tu me diras après. Ça marche. Eh ben, je te remercie beaucoup, en tout cas, pour ta participation.
Merci de m'avoir invité.
Eh ben, je t'en prie. Et puis, on se dit donc à mercredi prochain pour une nouvelle émission sur Neptune. Au revoir, à bientôt. Salut, Naïs.
Au revoir.